Salut tout le monde.
Gay.
Ça va, j'ai rien dit, commencez pas là.
Mes amis, aujourd'hui nous allons avoir un problème, un gros problème.
Gros comme moi à peu près
Mais encore plus gros que Godzilla. Car le film dont je vais vous parler aujourd'hui n'est autre que Pacific Rim. Il m'a beaucoup été demandé celui-là dans les commentaires. Et mes petits amis, mes petits potes à la compote, pour une raison que j'ignore, tout le monde a l'air de kiffer ce film. J'ai jeté un petit coup d'œil à ce qu'en disaient mes chers collègues youtubeurs cinéma, français et américains aussi d'ailleurs. Et la plupart en parlent très positivement, disent que voilà, c'est un super film, limite même si c'est pas le meilleur film de Guillermo del Toro. Alors, Comment vous dire que j'avais un peu hâte de vous parler de ce film, que je n'avais vu qu'une seule fois et dont je n'avais quasiment aucun souvenir, donc j'avais un petit peu hâte de me replonger dedans, si tu veux. Et en le revoyant, j'ai compris pourquoi j'en avais aucun souvenir. Tout simplement parce que ce film est nul à chier. Je vous le dis haut et fort. Des 80 films à peu près dont je vous ai parlé sur la chaîne, Pacific Rim est dans le top 3, pour ne pas dire carrément le top 1, les gars, mais oui, mais bien sûr. Des films que j'ai le moins aimé.
Tu es sérieux ?
Je n'ai pas du tout aimé Pacific Rim, les gars. Je vous jure, voilà, je sais pas, mais sur moi, ça marche pas du tout. Alors, il y a deux ou trois trucs que j'ai kiffé, bien sûr. Visuellement, c'est sympa, les bastons sont cool. Mais tout le reste, c'est cliché sur cliché sur cliché sur cliché. Ce qui fait que je comprends pas pourquoi autant de gens kiffent ce film, et je me donne comme challenge avec cette vidéo de vous prouver que c'est véritablement une grosse daube. De toute façon, n'oubliez jamais une chose. Sur 12 par sec, c'est moi qui ai raison. Pour piloter des robots de 200 mètres de haut et affronter des monstres plus gros que Godzilla, il faut être en forme, il faut être bien à son aise, et surtout, il faut être bien hydraté. C'est pour ça que cette vidéo est sponsorisée par...
Holy, bien sûr.
Et en plus, vous avez vu, je suis fin prêt pour la Coupe du Monde. Quoi de mieux que de vous parler de boissons hyper bonnes à boire pendant ces grosses chaleurs d'été qui arrivent. Parce que Holy, c'est ça. De la poudre, de l'eau, et ça fait une petite boisson bien sympatoche. C'est sans sucre, contrairement à la plupart des sodas. Les arômes sont naturels. Il n'y a pas de taurine, il y a des antioxydants, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore
Des vitamines,
absolument. Et surtout, il y a le goût de... Je le savais. Je me suis fait chier à tout poser, là. On prend un petit sachet. Vous pouvez en prendre deux, mais un, ça suffit. Ou une dose dans un pot. Vous pouvez en prendre deux, mais une seule, ça suffit. Vous la versez dans le shaker. Vous y mettez de l'eau, 50 centilitres à peu près. Vous refermez pour y shaker le bottom. Et là, soyez témoins. Witness. C'est aussi facile et rapide à préparer que bon et agréable à boire. Et en plus, ils ont 4 gammes différentes.
C'est vrai ?
Bien sûr que c'est vrai. Tu crois que je déconne ? La gamme énergie, pour les moments où vous devez défoncer des méchants, piloter des Jaegers ou tout simplement survivre au petit coup de barre de 15h30. C'est ma gamme préférée, celle-là. Clairement, je le dis tout le temps. Quand j'en bois, je me sens tellement puissant, Vous savez comment on m'appelle ?
Le Destructeur.
La gamme Ice Tea, pour boire un petit thé glacé tranquillement, comme un aristocrate british dans le salon de son château qui parle placement immobilier. La gamme Hydration, parce que l'eau c'est bien, mais l'eau avec des goûts de fruits c'est encore mieux. Clairement, tous les joueurs pendant la Coupe du Monde de foot, je peux vous dire qu'ils kifferaient ça. Et enfin, la gamme Milkshake, où cette fois vous ajoutez du lait pour un petit plaisir qui passe crème. Oh, c'est bon ça. Et en plus, boire du Holy, c'est aussi un petit geste écologique.
Ah oui ?
Bah oui, parce que si vous voulez, un pot comme ça, ça permet d'éviter d'acheter et de jeter 50 canettes. C'est un petit geste en plus pour la planète.
C'est bien ça.
Et en plus, au lieu d'utiliser de la caféine classique, Holy utilise de la New Caf.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est de la caféine cristallisée, voilà. Ça agit plus longtemps, quoi. C'est sur le plus long terme, si vous voulez. L'effet est plus progressif et plus durable.
Ça, c'est génial !
Si vous avez envie d'essayer, je vous conseille le pack Découverte, avec 14 sachets et 7 saveurs différentes. Comme ça, vous avez un petit panel de goûts et de saveurs à tester. Et s'il y en a une qui vous plaît vraiment, et après, faites comme moi. Prenez le pot ! Et en plus, avec le code 12 par sec, ou avec le lien en description, ou en scannant le QR code, vous aurez 10% de réduction sur votre commande. Et voilà, attends, sans déconner, si avec ça vous n'avez pas envie d'essayer, je sais pas ce qu'il vous faut, sérieux.
Putain de Dieu, c'est vachement vrai.
Merci beaucoup à Holy, à la vôtre, et allez la France. Bien, alors juste avant de commencer, je vous annonce que je serai à la SARSConv le 4 juillet, c'est à Saucelles-les-Pins, c'est juste en face de Marseille. Eh oui, c'est là où j'habite, c'est pour ça que j'ai dit oui, c'est à 30 minutes de chez moi. Et donc si vous voulez me voir, c'est sûr qu'il faut être un petit peu dans le coin. Si vous êtes à Mulhouse ou à Lorient, à vous de voir. Moi si j'étais à votre place, Bon, je le ferai quand même, parce que bon, c'est vrai que c'est pour venir me voir, quoi. Ça vaut largement les 10 heures de route et les 300 euros de péage et d'essence. Et en plus, vous pouvez même me ramener un cadeau. Hein. Bah écoutez, je trouve que ça se fait, hein, quand même, je sais pas, quand on va quelque part, c'est la moindre des choses. La SouthConf, c'est une convention dédiée à la science-fiction, au fantastique et à la fantasy, mais aussi à la science, la vulgarisation, et aux passerelles entre l'imaginaire et le réel. C'est toute la journée, et moi je participerai même à une table ronde sur les grands mystères qui inspirent la science-fiction. Il y aura des scientifiques, des ingénieurs, des auteurs, des dessinateurs, enfin que des passionnés quoi. En tout cas, j'ai hâte d'y être, et si vous êtes dans le coin, bah venez nous dire bonjour bordel. Pacific Rim, alors, par où commencer avec ce film de merde? Sorti en 2013, réalisé par Guillermo del Toro, qui est un petit peu la version mexicaine de Peter Jackson. Hein. D'ailleurs, ils sont un peu potes, hein, je crois. Hein. Bah en même temps, qui se ressemble, ça semble. C'est pour ça que PH est pote avec E.T. Del Toro était scénariste sur la trilogie du Hobbit. On comprend mieux pourquoi Pacific Rim est aussi bidon. Alors, Guillermo del Toro, moi je m'en fous. Voilà, mais écoutez, je vous dire, hein, j'ai pas vu beaucoup de ses films, et le peu que j'ai vu, ça m'a pas vraiment intéressé. Il y en a même que j'ai carrément pas aimé du tout. Ah bah, La Forme de l'eau, par exemple, je l'ai même pas fini.
Ah, je sais. Peut-être que ça en choquera certains, j'espère.
12 Parsecs est une chaîne choquante. Mais du coup, c'est vrai que je suis très embêté avec Pacific Rim. Parce que la vérité, c'est que je ne sais pas si j'ai bien compris le film, en fait, hein, dans le sens où, bon... Parce que c'est quand même extrêmement bas de plafond, hein, avec une liste de clichés qui est longue comme le bras. Mais j'arrive pas à savoir si c'est fait exprès ou pas, en fait. Je sais pas s'il y a un côté un peu parodique ou moquerie, tu vois, enfin, je sais même pas vraiment comment le définir. Ou si, justement, pas du tout, tu vois, voilà, est-ce que... Non, le film est très sérieux, tu vois. Et Del Toro a vraiment voulu faire un film d'action un petit peu décalé, tu vois, très stylisé. Attendez, je veux dire, j'ai carrément lu partout que Pacific Rim était considéré comme son film le plus personnel. Alors, je veux bien le croire, hein, j'en sais rien, moi. Je le connais pas, moi, ce gars-là. Mais si c'est bien le cas, franchement, je sais pas, il y a un problème, là. En deux mots, ça raconte l'histoire d'énormes monstres qu'on appelle des kaiju. En gros, ce sont des cousins de Godzilla. Del Toro s'est inspiré, évidemment, de tout ça, hein, de toute cette culture asiatique-là, hein, des grands monstres. Pacific Rim est ce qu'on appelle un kaiju eiga, c'est-à-dire un film de monstres géants. Eiga qui veut dire film en japonais. Hein. Et c'est également ce qu'on appelle un kso eiga. Kso ou kuso, en fait, veut dire merde en japonais. Hein. Et donc, ces kaiju apparaissent dans une faille au fond de l'océan Pacifique. Et on aura pas plus d'informations dessus. Hein, Ils apparaissent comme ça, dans une faille, au fond de l'océan. Ouais, si, comme ça. Non mais sérieux, pourquoi il y a une faille au fond de l'océan qui donne sur une autre dimension? Je trouve ça quand même un petit peu fort en sauce et en foutage de gueule. Je dis pas que c'est pas crédible, on est dans un film de science-fiction, on s'en fout. J'ai assez dit de fois sur cette chaîne que si on critique ça dans un film, faut critiquer tout le reste. Mais donnez-nous quand même une petite ligne d'explication, peut-être. Et donc ces kaijus veulent détruire la Terre, et la solution que l'humanité a trouvée, c'est de foutre tout son pognon dans la construction de robots gigantesques pour leur péter la gueule quand ils arrivent. Alors, outre le fait que l'histoire a certainement été écrite par un élève qui s'emmerdait en cours de français en CM1, il y a quand même un truc qui est un peu sympa et qui aurait, je trouve, pu être exploité beaucoup plus que ça, mais qui au final n'a pas été exploité du tout, c'est que les robots qu'on appelle des Jaeger, ils doivent être pilotés par deux personnes en même temps, qui doivent se connecter l'un à l'autre pour arriver à gérer un peu le truc dans ce qu'on appelle la dérive. Ce qui veut donc dire qu'ils rentrent un peu dans la tête l'un de l'autre et même dans, si vous voulez, dans la mémoire et dans les souvenirs de l'autre. Alors, en fait, excusez-moi, mais... J'ai pas compris. Pourquoi il y a besoin de faire ça?
Pourquoi pas?
Alors bon, il t'explique en une phrase que c'est un peu trop compliqué pour un seul pilote avec la charge neuronale de mon cul, là. N'importe quoi. On pourrait très bien piloter un Jaeger à deux s'il faut, mais sans avoir à rentrer dans les souvenirs de l'autre.
Il a raison.
En plus, on nous dit au début qu'il faut que les personnes soient compatibles. Alors on sait absolument pas ce que ça veut vraiment dire et on n'aura pas d'autres explications. Mais on comprend pas très bien parce que pendant tout le film, on voit que les gens qui sont compatibles, en fait, qui pilotent les Jaeger, ils sont systématiquement de la même famille. Là, c'est deux frères. Là, c'est trois frères. Là, c'est un frère et une sœur. Là, c'est un père et son fils. Ok, bon, tu te dis la compatibilité, faut quand même que, hein, ils soient assez proches. Et ensuite, arrive le moment dans le film où on découvre qu'en fait, à peu près n'importe qui peut le faire avec n'importe qui d'autre, puisque les deux héros vont le faire alors qu'ils n'ont aucun lien, et que le Marshall va aussi le faire avec un autre type alors qu'ils se connaissent absolument pas. Enfin, en tout cas, ils sont pas du tout de la même famille. Et d'ailleurs, ça se voit. Et puis bon, on nous dit aussi qu'il faut être absolument deux, sinon ça marche pas, sauf que, bah, il y a eu deux fois où il y a un seul pilote qui a réussi à ramener un Jaeger à la base.
Ouais, et alors?
Ouais, bah, je suis désolé, mais ça a pas trop de sens. Alors, je sais que vous allez m'en trouver du sens là, mais je m'en fous, je supprimerai les commentaires. Non, mais sans déconner, les gars, sérieusement, ce film, c'est un festival de clichés, mais c'est hallucinant, quoi. On va en voir plein tout au long du film. film, mais je me suis posé la question, si je devais n'en retenir qu'un seul, celui qui m'a le plus énervé, c'est le chien. Ce con de chien, là. D'abord parce qu'il est laid, hein, clairement, hein, ça c'est d'une laideur repoussante, mais surtout parce qu'il ne sert à rien de chez rien, de chez putain de bordel, de rien du tout, nom d'un chien. Déjà que d'habitude, dans les films d'action hollywoodiens, les chiens, ils servent pas à grand-chose, à part créer des petites scènes cool, tu vois, parce que bon, il y a forcément un moment donné où tu les sauves, ou alors eux-mêmes vont faire des trucs un peu mignons, un peu sympas. Bon, ok, mais là, le chien qui est là, mais les mecs, mais il ne fait absolument rien. Il y a aucun moment où il va servir à quoi que ce soit. Il va être là, juste pour être là, en fait. À croire que le réalisateur a juste mis un chien dans son film pour pouvoir cocher la case chien. Mais sérieux, mais c'est pas possible, quoi, franchement. Ou alors, je sais pas, il y a un truc que j'ai pas compris. Est-ce que ce serait une parodie? Est-ce que c'est justement pour se moquer du fait qu'on nous met toujours un chien comme ça dans les films? Je sais pas, voilà, peut-être avez-vous la réponse. Niveau casting, on retrouve Charlie Hunnam, pas hyper connu, mais bon, assez cool quand même. Hein. Je l'ai bien kiffé dans Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur de Guy Ritchie. Ah, ça déménage un peu ce film-là. Ça, c'est du Guy Ritchie comme on l'aime. Et on l'a vu aussi récemment dans la série Netflix sur le tueur en série Ed Gein. À savoir que Charlie Hunnam a failli être choisi pour jouer Anakin Skywalker dans Star Wars épisode 2. Il était parmi les derniers choix, hein. Mais au final, Lucas lui a préféré Hayden Christensen. On découvre aussi l'actrice japonaise Rinko Kikuchi, qui a joué dans plus d'une trentaine de films, hein, mais bon, la plupart c'est au Japon. Il y a quelques autres petits rôles aussi, voilà, quelques têtes qu'on a déjà croisées ici ou là. Bon, il y a quand même Ron Perlman, hein, bien sûr, hein, un petit peu l'acteur fétiche de Guillermo del Toro, puisqu'il l'a fait jouer dans 6 de ses films, et notamment, bien sûr, dans Hellboy. J'ai pas vu ça, Hellboy, vous voyez, ça, je sais pas ce que ça vaut. C'est bien ou je sais pas, faudrait que je le fasse sur la chaîne ou pas. Et nous d'ailleurs, Ron Perlman, on l'a vu récemment hein, sur la chaîne dans la vidéo sur Alien 4.
Elle est bien celle-là ?
C'est la meilleure. Et surtout, mon personnage préféré du film, enfin ça c'est dans la première moitié du film, parce que dans la deuxième moitié, il m'énerve tellement que j'ai envie de lui casser la gueule, Idris Elba. Alors là, clairement, mais clairement, il n'y a pas un mec plus crédible que lui dans le rôle du marshal autoritaire et charismatique. C'est marrant parce que, étrangement, je trouve que c'est presque le personnage le moins cliché du film. Bon, sinon, il y a quand même quelques trucs que j'ai kiffé, hein, évidemment, hein, les bastons sont incroyables, hein, elles sont surpuissantes, les Jaegers sont grave stylés, l'impression de gigantisme des robots et des kaijus est vraiment très réussie, mais attention, hein, pas tout le temps. Allez, on lance le film. Et c'est hyper, avec déjà deux définitions. Kaiju, Giant Beast, donc une bête géante, hein, un monstre géant, quoi. Vous comprendrez donc pourquoi Kaiju est le surnom que j'ai donné à mon Sgeg.
Quand j'étais enfant, chaque fois que je me sentais petit ou trop seul, je levais la tête vers les étoiles.
Oh non, c'est pas vrai, ça va pas recommencer. Encore un film qui commence sur un ciel étoilé.
Bah oui, et alors?
Bah non, et alors?
Bah si, en fait.
Bah non, en fait. Putain, sans déconner, quoi, un film de science-fiction sur deux, ça commence par un ciel étoilé. Rien que sur les films dont j'ai parlé sur la chaîne, il y en a au moins 15 qui commencent comme ça. Sérieux, vous êtes capable de faire autre chose des fois ou...
Quand une vie extraterrestre est entrée dans notre monde, elle a surgi des profondeurs de l'océan Pacifique. Une fissure entre deux plaques tectoniques, un portail entre deux dimensions.
Alors voilà, donc cette faille-là, bon, c'est pas grave. Alors, le film commence sur un montage qui nous résume un petit peu la situation. Un jour, en pleine nuit, il y a un monstre gigantesque, un kaiju, qui est apparu à San Francisco. Et il a commencé à tout défoncer sur son passage, les ponts, les bagnoles et tout.
C'est incroyable, ça.
Ah bah, plutôt, oui. Et comme d'habitude, il défonce le Golden Gate Bridge. Alors, question, hein, question importante. Pourquoi les monstres détruisent toujours le Golden Gate Bridge? Sérieux, trouvez-moi un film de science-fiction qui se passe à San Francisco dans lequel le Golden Gate Bridge n'est pas explosé. Dans Godzilla, il est explosé. Dans X-Men 3, il est explosé. Dans San Andreas, il est explosé. Dans plein d'autres films encore que je connais pas, mais j'en suis sûr, il est explosé. Mais attendez, qu'est-ce que vous avez contre ce pont, bordel? Il est cool, ce pont. Moi, je l'aime bien, ce pont. J'ai fait du vélo sur ce pont. J'ai adoré ce pont. Et c'est vrai, j'ai carrément kiffé cet endroit, quoi. Et bien malheureusement, je peux plus y retourner aujourd'hui.
T'as des ennuis dans ce bled?
Je dirais simplement que je souhaite éviter que l'Empire s'intéresse trop à moi. Et donc, comme il y avait de plus en plus de kaiju et qu'ils foutaient un de ces bordels en tuant des milliers de personnes, l'humanité tout entière a travaillé de concert pour trouver une solution. Alors au début, on voit qu'il y a eu des tests un peu ratés, hein, tu vois, parce que, en fait, la charge neuronale du Jaeger était trop lourde
pour un seul pilote.
Quoi ?
Bah c'est bon, j'allais le dire.
Oui, bah c'est mieux quand c'est l'extrait.
Bah pas forcément, non.
C'est bon.
En tout cas, j'aimerais quand même bien qu'on m'explique pourquoi les images d'archives sont en noir et blanc. Je veux dire, à ce moment-là, on est dans les années 2010, hein. On n'est pas en 1920. Enfin, toujours est-il qu'un système à deux pilotes a été mis en place, l'un contrôlant l'hémisphère gauche,
et l'autre l'hémisphère droit.
Bon bah c'est bon, dans ce cas je dis plus rien, quoi.
Oui bah dis pas les répliques du film aussi.
Mais je fais ce que je veux, c'est moi qui écris le texte.
Ouais bah, il a chié ton texte.
Ouais. Je vais faire comme si j'avais pas entendu. Bon, du coup, après, quand il y a eu deux pilotes, là, ils ont bien géré et ils ont réussi à déglinguer tous les monstres, là. Et la vie a pu reprendre plus ou moins normalement, parce que maintenant, les kaijus, ils ne leur font plus peur, et on peut leur défoncer leur race avec style et panache. Et c'est ici qu'on découvre les frères Beckett, Riley et Yancy. Yancy. Le mec s'appelle Yancy. Qu'est-ce que c'est que ce prénom? J'ai jamais entendu ça. En fait, si. Et la seule fois où j'ai vu ce prénom, c'est quand j'ai été confronté au chef-d'œuvre de John Woo, Hard Target, Chasse à l'homme, dans laquelle on découvre la très charmante Natasha, qui est jouée par Yancy Butler. Ah là là, eh, moi je kiffe vraiment Chasse à l'homme. Ça, voyez, ça c'est un pur films. Ça raconte l'histoire d'une femme qui cherche son père SDF et qui va se faire aider par Chance Boudreau, mais ils vont se faire prendre en chasse par une organisation qui donne une chance au SDF de s'enfuir avec une grosse somme d'argent, sauf que les mecs les chassent en pleine ville jusqu'à la mort. Et bah ça, vous voyez, et bah, ce sera dans mon programme pour les prochaines élections présidentielles.
Pourquoi? Parce que tu vas te présenter?
Bah là, franchement, là je crois qu'il n'y a plus le choix. La France ne pourra s'en sortir et aller de l'avant que si elle est dirigée par la douce parsecte. Dis donc, vous voulez pas qu'on parle de Chasse à l'homme plutôt que de Pacific Rim, franchement? On se marrerait beaucoup plus, hein.
Non, on n'a pas prévu, là.
Tant pis, non, bah, la prochaine fois. Allez, retour à nos deux frangins, Yancy et Riley, qui se trouvent être les pilotes du Gypsy Danger, le Jaeger américain. Oui, parce qu'il y a des Jaegers qui sont dans plusieurs pays, hein. Chaque pays a un peu son Jaeger. Il y en a un au Japon, il y en a un en Chine, un en Russie, un en Australie, un à Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne. C'est à côté de Champlit, hein, entre Chazeuil et Framont. Et là, on découvre un petit peu comment ça se passe. Comment ils s'équipent un petit peu, tu vois, comment ils prennent le contrôle du Jaeger. Et on découvre aussi les gens qui bossent avec eux, et notamment le Marshal Stacker Pencoast, qui n'a pas l'air de rigoler beaucoup, hein. De toute façon, Idris Elba, c'est pas tellement le mec que t'as envie de faire chier, hein. Il a jamais l'air de vraiment beaucoup se marrer, hein. Alors que pourtant, il a quand même joué le rôle de Charles Miner dans The Office, hein, et qu'il était, comme toujours, absolument excellent. J'adore ce type, voilà. De toute façon, j'adore tous les gens qui ont joué dans The Office. Sauf Toby. Voilà, Toby, je le déteste.
Ranger, ici Marshal Stacker Pentecost, préparez-vous pour jonction neuronale.
Démarrage dans 15 secondes.
Allez, c'est parti pour la jonction neuronale, les gars!
Oh oui, c'est super! Qu'est-ce que c'est?
Eh ben c'est mon pote, c'est qu'on est deux pilotes qui se connectent à leur cerveau pour rentrer dans leur mémoire. Ils doivent faire ce lien pour pouvoir piloter le Jaeger.
Plus profond est le lien, mieux on combat.
Et c'est parti à l'attaque! Suce l'ennemi!
Suce à l'ennemi!
Suce à l'ennemi, oui. Et direct, le Jaeger part au combat, il y a du kaiju de niveau 3 au programme, là. Et regardez, comme par hasard, il y a un tout petit bateau qui se retrouve piégé au milieu de la bataille. On a un petit caméo d'Artus en capitaine, là. Vous étiez au courant qu'il avait joué dans Pacific Rim, Artus?
Non. J'étais pas au courant.
Allez, Gypsy arrive, il chope le bateau et le met à l'abri. Le kaiju est juste là, et bonne patate de forêt dans ta face. Et pouh, une deuxième. Mais le kaiju se laisse pas faire et contre-attaque. Et Gypsy sort l'artillerie lourde. Pouh, pouh, voilà. C'est comme ça qu'on filme une baston entre un robot géant et un monstre de 200 mètres de haut. Enfin, un mec qui a compris ce que c'était le cinéma, bordel de merde. Monsieur Del Toro, vous aviez attisé notre curiosité. Maintenant, vous avez notre attention. Tâchez de ne pas la gâcher. Le kaiju a arraché le bras du Jaeger. Hein, ça sent pas bon, là. Allez, les frangins, unissez votre force. Si vous êtes assez bons, plus rien ne pourra jamais vous séparer.
Allez, écoute-moi.
La 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 la, Yancy s'est fait choper. Riley vient de voir son frère mourir sous ses yeux. Et là, il a plus le choix. Il se vénère, charge son canon nucléaire et explosion de ouf, ça coupe toutes les communications. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Riley est encore vivant?
Non, je crois que non.
Oui, oui, il est encore vivant, oui, puisque c'est le personnage principal du film et le film vient de commencer, donc il est pas mort tout de suite. Et on retrouve le Jaeger qui vient de s'échouer sur une côte de l'Alaska et Riley qui en sort en titubant. Riley s'effondre et Pacific Rim. Alors, je pose la question une dernière fois, hein. Est-ce qu'on est bien sûr que vous voulez pas plutôt qu'on parle de Chasse à l'homme?
Non, non, non,
non, arrête, 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 c'est bon. Et on commence 5 ans après les événements et direct c'est la merde, car les grands patrons annoncent au Marshal que le programme Jaeger est terminé, parce que c'est plus aussi efficace qu'avant. En fait, les kaijus continuent d'apparaître, mais là, ils sont de plus en plus gros, et ils commencent à s'adapter aux défenses des Jaegers, qui tombent comme des mouches, hein. Vous imaginez une mouche de la taille d'un Jaeger? Ben, ce sera un kaiju, en fait. Peut-être il faudrait que vous essayiez de construire des trucs encore plus grands. Oui, mais grands comment, à peu près? Ah bah, au moins grands comme ma bite, hein. Ah, putain, t'es con, Michel. Ouais, c'est bon, on peut rigoler. Et donc voilà, les subventions sont coupées, mais le Marshal, il s'en fout, parce que le Marshal, c'est motherfucking Idris Elba.
On fera sans eux.
Allez, bienvenue au Walk of Life.
Mais c'est pas Walk of Life, c'est Wall of Life.
Le Wall of Life, oui. Le mur de la vie, non. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Encore un truc qu'ils vont mettre 5 ans à construire et qui sera pété en 3 secondes. Et on retrouve notre beau Riley qui fait partie des ouvriers. Ils construisent un nouveau mur qui va être infranchissable. Un mur que aucun kaiju ne pourrait détruire. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'ils font ça, puisqu'ils ont déjà construit exactement le même mur en Australie, à Sydney. Et là, bah, y a un kaiju qui l'a détruit, hein, tout simplement. Bon alors, a priori, dans certaines analyses que j'ai pu voir, il apparaît que Del Toro, il a justement fait ça pour se moquer des gouvernements, qui prennent bien souvent des décisions complètement à côté de la plaque, vu qu'ils ne réalisent pas du tout ce qu'il faut faire, vu qu'ils sont pas sur le terrain. À la limite, je dirais que si c'est le cas, ça va, c'est pas mal. Et là, il y a un père et son fils qui pilotent un autre Jaeger, le Striker Eureka. Donc, encore une fois, comme on disait, deux pilotes de la même famille, hein, et qui va mettre une grosse branlée au Kaiju Bladehead. Oui, parce que les Kaiju aussi, ils ont des petits noms un peu cool, hein. Tous également donnés par un élève de CM1. Le combat dure que quelques secondes, mais c'est déjà génial. Trah la vache, non mais, les Jaeger, non mais, il faut trop qu'on se mette à construire des trucs comme ça. Là, maintenant, faut qu'on commence aujourd'hui. En plus, ça va créer plein d'emplois. Ah, je peux vous dire que si je suis élu président de la République l'année prochaine, on supprime tous les budgets des trucs qui servent à rien, comme l'éducation ou la santé, et on réinjecte tout dans la construction de 50 Jaeger. Et là, vous saurez où passent vos impôts, bordel. Et là, au moins, on pourra se défendre avec classe et avec panache.
Non mais, se défendre contre quoi? Y a même pas de kaiju.
Oui, bon, ça, c'est pas grave, ça. Au moins le jour où il y en aura, on sera prêt. Allez, je lance un crowdfunding. Et là, le Marshall débarque pour dire à Riley qu'il faut qu'il revienne pour piloter un ancien Jaeger qui marche plus. Mais bien sûr, comme dans toute bonne grosse production qui se respecte, on va nous ressortir le bon vieux cliché qu'on a vu à peu près 350 millions de fois. Le personnage principal ne veut pas y aller. Ah non, non, mais c'est un film génial, hein, attention. Non, là, les gars, là, on est sur un chef-d'œuvre. C'est ce qu'on appelle le refus de l'appel, apparemment. Je sais pas si c'est un nom, mais... Le personnage principal ne veut pas y aller. Soit parce qu'il est blessé, ou traumatisé, ou meurtri, tu vois. Le monde peut bien s'effondrer autour de lui. Il est le dernier espoir de l'humanité. Mais il commencera toujours par dire non. Non, non, j'écoutais, non, je ne suis plus cette personne. Parce que si tu veux, ça montre que le héros, bah, quelque part, bah, il souffre, tu vois. Et pour lui, ce sera aussi un combat contre lui-même. Sérieux, non, mais ça sert à rien, c'est de la merde. On sait très bien qu'il va accepter. Le réalisateur sait qu'on sait qu'il va accepter. Même le chien du héros, il sait qu'il va accepter. Donc, je suis désolé, mais pour moi, ça devient du remplissage dramatique. Sérieux, tous les films font pareil, quoi. Ah, je vous jure, je rêve d'un film où le héros, on vient le voir, et puis il lui dit, non, ouais, pas de problème, je suis chaud, c'est parti, on y va. Ah bah non, il faut que tu refuses d'abord, normalement, sinon ça marche pas. Ah oui, c'est vrai, pardon, non, j'avais oublié, oui, non, bah non, je veux pas alors, non. Revenez me voir dans 2-3 scènes, le temps que je regarde une ancienne photo de moi et mon pote qui est mort en soupirant, assis sur mon lit. Ok, à tout à l'heure. Et donc, bah là, c'est pareil. Bon alors, vous venez ou pas? Non, franchement, j'ai plus la foi, là. Non, je suis trop vieux pour ces conneries. Vous ferez équipe avec Sydney Sweeney, vous devez vous changer ensemble, il y a qu'un seul vestiaire. Parfait, on commence à quelle heure? Et nous voici maintenant dans la baie de Hong Kong. On dirait que j'ai la voix de Guilux un peu. Eh oui, nous voici maintenant dans la baie de Hong Kong. Il est 18h, voilà. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'heure encore? Mais il est 18h, ouais, super. Merci, hein, justement, ma montre marchait pas, je savais pas quelle heure il était. Et là, Riley est présenté à Mako Mori, une femme responsable du programme de restauration des modèles 3 des Jaeger. Il rencontre aussi deux autres docteurs un petit peu loufoques et surexcités, tu vois. Tu comprends immédiatement que eux, ils vont remplir la caution scientifique un petit peu foufou mais marrante. Encore un bon gros cliché, hein.
Oh, encore?
Eh oui, encore.
Bah oui, les gars, mais je suis désolé, mais ça, vous pouvez pas l'enlever, ça. Le film ne se résume pas à ça, bien sûr, loin de là. Mais n'empêche que des clichés à la con, eh ben, il y en a toutes les deux scènes. Le Marshall fait le tour de tous les Jaeger qui sont encore en état de marche. L'entrepôt est gigantesque et des centaines de personnes qui bossent dedans. Bah, et donc, les subventions, elles ont été coupées il y a 5 ans, mais pourtant, ça a l'air de bien rouler quand même. Je sais pas comment ils financent tout ça, mais bon. Oh, il y a certainement du Elon Musk là-dedans, hein. Ça, c'est un projet qui pourrait bien lui plaire, ça. Ou alors, ils se sont servis sur nos livrets A. Voilà, c'est tout. Non, mais oui, mais ça, c'est des salauds, ça.
Non, mais là, tu mélanges tout, hein.
Mais non, je mélange pas tout, enfin. Je mélange rien. Je l'ai lu sur Internet. Là, on voit d'autres pilotes de Jaeger. Il y a des Chinois qui jouent au basket. Ils s'entraînent pour battre Victor Wembanyama. Et oui, parce que Victor Wembanyama est un Jaeger. C'est le Jaeger de la NBA. Tu sais, ce serait un bon surnom, ça, pour lui. Qu'est-ce que vous en pensez, là? Je vais lui proposer, là. On va voir s'il me répond. Ça le motivera peut-être pour gagner le championnat l'année prochaine. Vu comment ils viennent juste de perdre comme des cons contre les Knicks en finale. Râle! Ne parlons pas de choses qui fâchent. Ensuite, on voit les pilotes du Jaeger russe. Ah la vache, dégaine du duo, quoi. Les mecs, on dirait des vieux personnages d'une série Star Wars. C'est dire à quel point ils ont l'air ridicules. Et là, le Marshall dévoile à Riley son plan. Ils vont s'attaquer directement à la brèche en fixant un max d'explosifs sur 3 Jaeger qu'ils vont envoyer pour tout exploser.
Nous allons fixer une ogive thermonucléaire d'une tonne 2 sur Striker.
D'où vous sortez un truc aussi énorme?
De mon pantalon.
Max, viens ici!
Ah, c'est intéressant ce plan avec le chien là. Super. Bah non, vraiment, c'était. Il fallait le filmer, je pense. Chef-d'œuvre. Là, on assiste à un chef-d'œuvre. Alors, y a pas à chier. Allez, on passe sur les deux scientifiques qui font des trucs de scientifiques, hein. Oui. Bah écoutez, en même temps, c'est logique, hein. Ils sont pas là pour poser de la moquette. Et y'en a un qui a calculé que la prochaine attaque de Kaiju serait dans 4 jours. On en parle du cliché du tableau là, avec 1 million de calculs derrière là. Hein, ça marche très bien, hein. C'est pour faire plus.
Scientifique!
Non, n'en parlons pas, sinon ça va commencer à se voir là.
Petit dialogue entre Rayleigh et Mako. Elle lui dit que c'est un gros connard.
Oh, oh,
elle lui dit pas ça, mais bon, elle lui dit qu'elle a analysé toutes ses techniques et que l'autre en combat il fait comme relativement n'importe quoi.
Je ne crois pas que vous soyez l'homme idéal pour cette mission.
Ouais, ouais, enfin bon. Elle dit que c'est pas l'homme de la situation, mais ça dépend aussi de quelle situation. Il y a des situations où ça doit certainement être l'homme de la situation. Surtout que comme par hasard, leurs chambres sont l'une en face de l'autre. Et puis c'est elle qui a choisi, hein. Putain, mais regardez l'autre, comment il fait bien exprès de laisser la porte grande ouverte pour qu'elle puisse le voir quand il se change. Mais ça c'est une bonne technique, ça. Moi je fais ça aussi souvent, je laisse la porte de l'entrée de mon immeuble grande ouverte, là, comme ça, les voisins quand ils rentrent chez eux, je me change, en direct, comme ça.
Tout le monde me voit.
Et du coup, tout le monde a déménagé à cet âge-là. Regardez là, la Mako, là, hein.
Ah, elle en ferait bien 104 heures, hein. Elle en ferait bien des petits sushis, hein, des petits makis.
Mais qui?
Bah Mako.
Au Mali?
Mais non, bah Mako au Mali, Mako là.
Ah oui.
Et là, Mako elle dit au Marshall qui lui a promis qu'elle pourrait piloter Gypsy. Mais l'autre là c'est quand même un peu un enfoiré parce qu'il fait des promesses qu'il tient pas du tout. Et en plus d'ailleurs il donne des explications complètement foireuses, tu sais, on comprend pas trop ce qu'il veut dire. Franchement, il est pas clair.
Pour ma famille.
C'est quel grenade?
Non mais sérieux, c'est quoi cette vieille réponse? Ah mais la vieille technique t'es pour fuir quoi, quand tu sais pas quoi dire et tu sais que t'as tort. C'est bon ça n'empêche, c'est pas mal. Je vais l'utiliser ça, ouais. Hein? Quand quelqu'un te demande un truc mais que t'as pas la réponse.
Mais pourquoi tu veux pas me prêter ta voiture?
Si on avait plus de temps, hein.
Et pourquoi t'as baisé ma femme?
Ah, si on avait plus de temps.
Bah on a tout le temps qu'il faut là.
Ouais mais non, non, on n'a pas assez de temps.
Bah on a toute l'après-midi devant nous.
C'est pas assez.
Non mais t'es en vacances pendant 3 semaines.
Non non mais c'est pas assez, je suis désolé.
Non mais on est tous les deux au chômage, on fout rien de nos journées.
Oui mais non, il faut plus de temps encore.
Bon, allez, à la soupe.
Allez, et tout ça, on n'a pas encore bouffé. Hein.
Passe les patates.
Ah, il y a des patates. C'est bon, les patates.
Comme ça, mange des patates.
Alors là, on fait donc la rencontre du personnage du fils connard. Chuck, le rival de Rayleigh. Un personnage ô combien inutile, selon moi.
Lui, il aime pas Rayleigh.
Mais c'est des mecs comme toi qui ont coulé le programme Jaeger. Pour moi, t'es un poids mort. Si tu me ralentis, je te laisse tomber comme un sac de merde de Kaiju.
Et POM. Qu'est-ce que tu dis ça?
Alors moi, ce que je kiffe, c'est que pendant que le fils, là, Chuck, il est en train d'insulter Rayleigh, t'as le père qui est juste à côté comme ça, puis qui dit rien. Il laisse son fils parler à Rayleigh comme elle de la merde. Non mais c'est quoi ce vieux daron, là?
J'en assume la responsabilité.
Non, 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 t'assumes rien du tout, là. T'as rien dit, abruti. T'es resté planté là, muet comme une carpe, les yeux rivés sur ton assiette. C'est comme ça que t'éduques ton fils?
Ah là là, il y a des baffes qui se perdent. Mais on va lui corriger son caractère à la racine, à celui-là, là.
Allez, c'est parti pour la scène d'entraînement des candidats. T'es écrit là, vous voyez, là, candidat trial 6h00.
Sérieux, mais qu'est-ce que c'est que ces textes explicatifs de merde?
Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir qu'il est 6h du matin?
Vous cherchez quoi en fait? Est-ce qu'on se dit, oh la vache, putain, les mecs ils sont hyper forts, ils se lèvent à 6h du matin pour s'entraîner, c'est des oufs?
Non mais on est des millions à faire ça, bande de gougnafiers.
Bah. Ah ouais, non mais je m'énerve, mais là c'est parce que ça m'énerve.
Rayleigh, bon bah évidemment il est meilleur que tout le monde, hein, comme c'est étonnant.
Mako elle dit à Rayleigh qu'il est pas assez bon, et lui il lui dit qu'elle a qu'à venir l'affronter puisqu'elle est si maligne. Sauf que rappelez-vous que le deuxième prénom du Marshall c'est Non Bordel, et que son troisième prénom c'est putain, mais quand je dis non, c'est non. Bordel, fou, la fermer sinon je vous défonce.
Et donc, bah, évidemment...
Non.
Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un personnage qui est bien établi, qui est parfaitement délimité, tu vois. Avec lui, on sait à quoi s'attendre, on n'aura pas de surprise.
Mais là, cette fois, c'est différent. Parce que Rayleigh, il va le piquer dans sa fierté. Il va trouver l'argument imparable, le seul argument qui peut faire changer le Marshall David.
Votre meilleur élément n'est pas assez forte pour moi? Allez-y.
Je suis désolé les gars, je sais très bien qu'il faut pas juger le film sur tous ces petits trucs trollés comme ça. Mais le problème, c'est que tous les petits trucs trollés comme ça, bah il y en a plein tout au long du film. Sérieux, vous êtes pas d'accord avec moi?
Si, t'as raison.
Et c'est parti pour le duel tant attendu entre Rayleigh et Mako. Le premier qui arrive à 4 touches a gagné. C'est un duel au sommet, le combat va être terrible. Attention, qui va être le vainqueur?
C'est Mako. Voilà, bah je vous le dis, 4 à 3, hein, c'est tout. Hein. Rien de plus à dire, hein. Le combat était nul en plus. Hein.
Mais il était pas nul du tout, il y avait une pure chorégraphie.
Ah bon?
Bah oui, bien sûr.
T'es sûr?
Mais grave, carrément.
Ok, ouais, je te fais confiance. Et tu peux nous remettre le combat, s'il te plaît?
Ok.
Allez.
1-0.
Un partout.
2-1.
C'est bien. Bon, bah on va arrêter là, hein, parce que...
Non, non, mais justement, c'est après que ça devient bien, là.
Eh bah tant pis, c'est trop tard. Il fallait commencer tout de suite. J'ai pas envie d'attendre pour que ce soit bien, moi. Sérieux, non, c'est... Non, mais ce sera mieux après, non, mais... Pourquoi après? Pourquoi c'est pas mieux maintenant? Pourquoi d'abord faire un truc nul pour ensuite le faire bien? Tu sais, c'est comme dans un million de séries, là, où on te dit toujours, non, non, mais il faut que tu passes les premiers épisodes, ou même carrément la première saison, tu vois, puis après, c'est bien. Non, mais je suis désolé, mais moi, j'ai pas envie de regarder un truc nul en attendant que ce soit bien. Si c'est pas bien tout de suite, épisode 1, moi, je regarde pas. C'est pour ça que d'ailleurs, je regarde jamais la chaîne J'ai de la culture geek. Bon bref, c'est Mako qui gagne, du coup Rayleigh, bah, il veut directement bosser avec elle.
C'est elle ma copilote. Ça ne pourra pas se faire.
Pourquoi ?
Parce que je le dis, monsieur Beckett. Ma décision est prise.
Voilà, c'est bien mon Marshall. Change rien, t'es le meilleur. Ça fait plaisir d'avoir un chef comme ça, toi. Un chef qui est au contact, hein, tu vois, je veux dire, qui prend la peine de t'écouter. Ça donne vraiment envie de travailler avec lui, hein, et de s'investir. Et là, on le retrouve dans l'ascenseur. Voyons voir, à qui est-ce que je vais pouvoir dire non maintenant ? Et si je me disais non à moi-même ? Ouais, non, c'est nul comme idée. Pendant ce temps, il y a le scientifique de tout à l'heure qui fait toujours des trucs du scientifique. Alors lui, il va essayer de se connecter à un bout de cerveau d'un kaiju pour faire une dérive avec lui. C'est-à-dire pour rentrer dans le cerveau du kaiju et puis pour avoir accès à ses souvenirs. À quand il était petit, avec ses parents, hein, qu'est-ce qu'il faisait ? Est-ce que lui aussi, il se baladait dans la campagne, tu vois, il jouait dans les champs au bord du petit ruisseau, tu vois ? Pendant que sa maman lui préparait des petites lamelles de jambon qu'elle disposait délicatement sur des petites tranches de pain. Et attention, hop, il saute par-dessus le ruisseau. Ah bah attends, c'était un petit kaiju comme les autres. Hein. Et là, le scientifique, il va découvrir des trucs qui ont l'air hyper chelous. On voit des extraterrestres, là, mais bon, on comprend pas bien ce qui se passe. Bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Ça doit pas être très important. Allez, c'est type. On entre en piste. Riley s'équipe et attend son binôme pour faire un premier test. Et oh là là, c'est Mocha.
Mako.
Ah non, mais attendez, mais moi je suis pas du tout d'accord là. Pourquoi c'est elle ? Il a changé d'avis, l'autre relou là ? Et là, il y a le deuxième scientifique qui arrive avec sa vieille canne là. Putain, non, mais sans déconner, mais comment je trouve ça trop laid aussi quoi ? Mais pourquoi il a besoin d'une canne, bordel ? Il va très bien là, il a rien du tout là. À part une sale gueule de petit bouffon là. Il serait bien pour jouer Victor lui dans Arcane. C'est un autre scientifique qui a une canne, ouais. Canne, Arcane.
Ouais, non.
Mais bon, Victor est plus beau quand même. Hein ? Et donc lui, il vient dire au Marshall que son collègue a réussi à faire une dérive avec un cerveau de kaiju. Et même qu'il a vu des trucs hyper chelous. Et ça intéresse beaucoup le Marshall qui va tout de suite lui demander ce qu'il a vu.
Bon, Newton. Newton, regardez-moi.
Oh putain, c'est pas vrai. Il s'appelle Newton. Un scientifique qui s'appelle Newton. Sérieux, mais les mecs, sans déconner. On est à quel niveau de cliché, là ? Ça, c'est le niveau légendaire. J'ai désolé, mais tu veux pas faire pire. Et d'ailleurs, l'autre, il s'appelle Herman aussi. Hein. Niveau prénom de scientifique, on est pas mal non plus. Ah, il y en a eu deux, trois de connus un petit peu, oui. Bon, bah, par exemple, t'as eu Herman von M. Lutz, ou Hermann Minkowski. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils étaient pas si connus que ça non plus. Hein. Vous ne les connaissiez pas. En attendant, avec tout ça, on se demande pourquoi ils ont pas appelé Idriss Elba Mamadou. Ah bah on est plus à ça près. Hein. Je crois que dans la première version du scénario, Mako devait s'appeler Jackie Chan. Alors encore une fois, on se répète, mais on se doute bien que évidemment, c'est fait exprès. Le film sait qu'il est cliché là-dessus. Hein. Voilà, ça m'étonnerait que Del Toro dise ouais, hey, on va l'appeler Newton. Ça va être trop bien. Ça va trop faire un scientifique génial. Et là, Newton, il dit ce qu'il a vu et il révèle enfin la vérité.
C'est des colonies. Ils occupent des mondes et ils s'en repaissent et ensuite ils passent au suivant.
Oula, ça nous rappelle quelque chose, ça dit non.
Ils déplacent leur civilisation de planète en planète. Après avoir consommé toutes les ressources naturelles, ils repartent. Nous sommes les suivants.
Putain, mais les mecs, mais c'est pas possible. C'est juste exactement la fucking même chose. C'est la même chose. C'est le même concept. Sérieux, non, mais c'est pas abusé, ça aussi. Et donc, les kaijus, ils étaient déjà venus sur Terre au temps des dinosaures, mais ils sont partis, et là, bah, ils reviennent. Parce que le climat est maintenant beaucoup mieux pour eux, et donc, bah, ils vont pas tarder à envoyer la deuxième salve de kaijus beaucoup plus gros. Et ça, le Marshall, ça le fait pas rire du tout. Retour aux gypsies avec Riley et Mako qui sont alignés. Mais là, d'un seul coup, Mako va partir loin, très loin dans ses souvenirs. Et c'est comme ça qu'on va un petit peu découvrir son histoire. On se retrouve donc au Japon, et justement on voit la petite Mako qui est toute seule dans la rue, et qui se fait poursuivre par un kaiju. Attention ! C'est incroyable, le kaiju, il la poursuit elle. Elle est minuscule, elle est rien pour lui, quoi. C'est comme si toi, t'avais jeté ton dévolu sur une fourmi. Et tu dis, elle, là je vais la poursuivre. Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre d'elle ? Ah, en plus, comme elle court pas vite, quoi. Sérieux, c'est trop laid, quoi. Et en même temps, non, en fait, c'est plutôt assez crédible. En fait, c'est exactement comme ça qu'ils courent, les enfants. Elle court se cacher chez PH, enfin, je veux dire, à côté d'une poubelle. Et là, vu que Riley est connecté à elle, en Bluetooth, il est aussi dans ses souvenirs. Il la voit et il comprend son traumatisme. Et là, Mako, elle est tellement absorbée par son souvenir qu'elle n'arrive plus à en sortir. Et elle allume carrément le canon du Jaeger dans le hangar devant tout le monde. Le truc de ouf, on va tous mourir à cause d'elle. J'en étais sûr, et voilà. Voilà pourquoi j'aurais dû le terminer le boulot à Hiroshima. Sauf que non, ils enlèvent les piles du Jaeger et Mako revient à elle. Mais là, c'est clair qu'elle a bien merdé. Et nous, on commence un peu à comprendre pourquoi le Marshall, il voulait pas qu'elle pilote un Jaeger depuis le début. Eh ouais, il est peut-être pas aussi con qu'il en a l'air, en fait. Pendant ce temps-là, Newton doit aller trouver un nouveau cerveau de kaiju chez un contrebandier. Il se retrouve en pleine rue, dans les mystères de Pékin, avec des petits trucs qu'on devait faire pour avoir des indices, là. Alors les gars, est-ce que vous pensez que ça va encore être Shaolin, le meurtrier ? Mystère de Pékin. Et il se retrouve dans un magasin et il rencontre Hannibal Cho, le chef de la mafia des kaijus. Ce sont des mecs qui vont sur les sites où les kaijus sont morts et puis ils récupèrent plein de trucs, tu vois, des bouts de kaijus, de plein de trucs, pour en faire de la contrebande. Dans le bureau du Marshall, Mako se fait engueuler. Bah en même temps c'est normal, hein. Je suis désolé, mais là, elle a merdé sur toute la ligne. Elle se fait donc renvoyer chez elle et elle part en pleurant. Et là, Riley, il dit au Marshall qu'il sait pourquoi il est aussi dur avec elle. Il était dans son souvenir et il a vu qui pilotait le Jaeger qui est venu la sauver. Car c'était lui, bien sûr, le Marshall. C'est un ancien
ancien pilote de Jaeger, il y a 20 ans. Et 20 ans plus tard, il a exactement la même gueule qu'à l'époque.
Ah là là, ils sont vraiment très forts, les Noirs. Impossible de savoir quel âge ils ont. Là, non, mais là, ils ont développé une technique secrète, infaillible, on peut jamais savoir leur âge. Et ça, c'est fort, ça. C'est très très fort.
Primo, vous ne me touchez plus jamais. Deuxio, vous ne me touchez plus jamais.
Est-ce que vous avez vu ce regard? Le regard d'Idriss Elba.
Non, non, mais là, Idriss Elba, il déchire.
Je crois que là, niveau charisme, on est quelque part entre Maximus et Bourvil. En tout cas, il dit à Riley que tout ce qu'il attend de lui, c'est une obéissance sans faille, au doigt et à l'œil. Et au premier faux pas, l'autre, il peut retourner sur son chantier.
Me suis-je bien fait comprendre?
Oui, monsieur.
Ah là là, c'est pas possible. Ah, il est trop classe. Ah, je l'adore, je l'adore. Ah, alors, je le suce quand il veut.
Non, c'est
pas ce que je voulais dire. Je me suis mal exprimé, non, c'est ce que je voulais dire, c'est que je kiffe le personnage, c'est tout. Allez, c'est parti, tout le monde à son poste, il y a deux kaijus qui arrivent en même temps. On envoie trois Jaegers pour les arrêter. Alors, cette scène, franchement, elle est excellente. Hein. Énorme baston de ouf entre les kaijus et les Jaegers. Ça s'envoie des mandales de l'espace. J'aime assez la mise en scène hein, et la réalisation de cette scène que je trouve très claire, très lisible. Il y a même parfois des plans qui sont assez longs hein, pour qu'on ait bien le temps de voir et de comprendre ce qui se passe. Contrairement à des centaines d'autres films qui auraient surdécoupé la scène avec 10 fois trop de plans pour tricher et cacher le fait qu'en fait il n'y a pas grand chose à voir. Là, c'est pas du tout le cas. On montre tout et on prend le temps de le faire. Et ça, c'est beau. Ça envoie du lourd. C'est bien, c'est génial. Maudit qu'on a du fun. Maudit qu'on a du plaisir. Hein. On est tout bien sur la chaîne 12 par sec. Hostit Christ Carlis. Le Jaeger russe se bat avec beaucoup de courage, mais finit par se faire défoncer. Et les deux pilotes meurent noyés. Et les trois chinois, bah, c'est pareil. On les voit 2 minutes et ils se font démonter aussi. Oh, sérieux, mais c'est pas possible. Hein. On peut pas travailler avec des abrutis pareils. Ça, ça me rappelle un peu quand Arnaud d'AstronoGeek, il fait des collabs avec Gontran de Gontran H ou Franck de Matador. Ils ont été mauvais, mais ils ont tous été mauvais ensemble. Et ça, c'est beau. Il ne reste donc plus que les Américains. Sauf que là, attention, Pikaiju, attaque éclair. Le Kaiju balance un EMP qui coupe tous les circuits électriques. Le truc de ouf, quoi. Le Jaeger, il peut plus rien faire. Le truc est à la pointe extrême de la technologie. Il y a deux pilotes qui sont connectés par télépathie. Il a carrément un réacteur nucléaire à l'intérieur. Mais voilà, au final, c'est comme n'importe quel autre appareil électrique. Ah bah, tu débranches la prise et c'est fini. Bon bah voilà, maintenant c'est mort. Hein. Qui pourra donc les arrêter? Tous les Jaegers sont hors service. Plus personne ne pourra barrer la route au Kaiju. Mais bien sûr que si, car il existe un être tout puissant. Le seul à pouvoir nous défendre contre les pires monstres de l'univers. Le seul qui pourrait sauver l'humanité tout entière.
Et je suis relié à l'énergie de l'homme vert, donc celui qu'on appelle l'homme vert. Les prophéties appellent le grand monarque aussi.
Et attention, voilà Gypsy Danger à la rescousse. Et oui, car c'est un Jaeger de l'ancienne génération, le seul à fonctionner au diesel. Et je vous raconte pas de conneries, c'est vrai en plus, hein, ils le disent dans le film. Et cette fois, Mako, elle va pas tout faire foirer comme une grosse conne.
Je veux dire, elle a quand même failli tuer tout le monde dans le hangar tout à l'heure. Hein.
Allez, c'est parti. Le Jaeger est là. Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre.
Bon, bah, écoutez, c'est reparti pour une bonne grosse baston qui tâche.
Les Kaiju vont pas se laisser faire. Cette fois, on va voir si ces fumiers s'accrochent encore à 90. J'aimais bien les bastons de Transformers, celles-ci sont meilleures. Bah, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils font un mouvement, ils détruisent 12 immeubles, donc... Chaque baston, ça coûte des milliards de dollars.
Sans déconner, quoi, non, mais le bordel qu'ils te foutent.
Et les habitants des villes, ils restent là. Ils ont pas décidé de tous déménager.
Non, parce que les Kaiju, ils apparaissent quand même plus ou moins tout le temps aux mêmes endroits.
Putain, la vache, moi, ça ferait longtemps que je serais parti, hein. Le truc, c'est une zone de guerre. La baston continue sur les quais, le Kaiju chope Gypsy, mais... Gypsy lui vide son chargeur de canon à plasma dans le bide. Hey, digère-moi ça. Et bah, Gypsy réussit à tuer le Kaiju. Alors maintenant, mes très chers amis, regardez un petit peu cette scène. Il y a un truc dont j'ai pas encore parlé par rapport à Newton le scientifique, c'est que comme il a dérivé avec le cerveau d'un Kaiju, et que la dérive, ça marche dans les deux sens, et bien maintenant, apparemment, les Kaiju, ils savent qui il est, et ils en ont carrément après lui. Et ça, c'est Hannibal Shaw qui lui dit.
Peut-être bien que ces Kaiju sont à ta recherche.
Et donc là, bah, Newton, il se cache dans un abri avec plein de gens parce qu'il y a un Kaiju dans la ville, et là, regardez ce qui va se passer.
Il sait que je suis là.
Chut, il sait qu'on est tous là.
Il n'a rien à voir, il en a après moi.
Quoi?
Il sait que je suis là, il en a après moi.
Elle
a dit ça? Et vous avez dit quoi? Elle a dit quoi? Il faut que je sorte de là. Laissez-moi sortir peut-être.
Est-ce que vous avez vu la rapidité avec laquelle la nana et tous les gens autour accepte le fait que le Kaiju soit à la recherche du gala en particulier. Sérieux, non mais ils sont 200 dans l'abri, t'as un pauvre type random qui te dit non mais le Kaiju il en a après moi, et toi direct tu le crois et tu dis à tout le monde que oui regardez, il a dit c'est bien lui que le Kaiju cherche en particulier. Je suis désolé les gars, hein, franchement, mais alors ce genre de facilité scénaristique, mais vraiment, je trouve ça nul à yesh. Ah j'ai pas peur de le dire, hein, allez-y, pourrissez-moi, hein, jetez-moi des cailloux dans les commentaires. Vous ne me ferez pas changer d'avis. Ça vous voyez, c'est pas mon cinéma. Moi, j'aime le cinéma de Truffaut, Godard, Fellini et Michael Bay. Mais pas tous ces trucs de merde, là, avec tous ces personnages pourris, mal écrits et remplis de clichés. Enfin, je replace juste bien ma cassette Armageddon, là, parce que... Le Kaiju vient donc effectivement chercher Newton, mais c'est sans compter sur Gypsy qui arrive par derrière, avec l'arme la plus ouf de toute l'histoire du cinéma, je veux pas le savoir. Un énorme porte-conteneur dont il va se servir comme d'une barre de fer pour péter la gueule au Kaiju, qui s'appelle d'ailleurs Otachi. Eh oui, Otachi, bah écoutez, comme ça vous le saurez. S'ensuit une énorme baston de malade où ils vont essayer de s'employer à détruire le maximum d'immeubles possibles. C'est pas grave, hein, ça va juste faire des milliers de morts et ça va coûter des milliards de milliards pour tout réparer. Otachi crache un liquide bleu qui a l'air d'agir un peu comme de l'acide. Le truc de ouf, quoi, la pure arme, tu comprends pas pourquoi ils utilisent pas ça plus souvent. Genre même littéralement tout le temps. Alors après, ils en produisent peut-être pas assez pour pouvoir l'utiliser sans arrêt. Et là, Otachi attrape Gypsy par les serres et s'envole dans l'atmosphère. Ils ont presque plus d'oxygène, ils ont plus aucun moyen de s'en sortir. Et là, Mako dit à Rayleigh qu'il existe une toute dernière solution. Une épée de taré. Ils sortent le sabre et attention, blaah, ils découpent Otachi en deux et chlaaah, truc de malade mental. Et maintenant, ils tombent en chute libre et ils vont s'écraser comme une grosse crêpe. Et attention, tout le monde aux abris. Et pouah. Alors là, normalement, le truc aurait dû juste s'écraser en mille morceaux. Mais bien sûr que non, tout va parfaitement bien. Et en plus, il est tombé à seulement quelques centaines de mètres du QG, hein, alors qu'il a quand même été dans l'espace. Normalement, il y a quand même 99% de chances que tu réatterrisses complètement ailleurs. Mais là, non, il retombe exactement à l'endroit où il a décollé. D'ailleurs, on se rend compte aussi que le QG, en fait, il était pas très loin de l'endroit où les Jaegers vont se péter avec les Kaiju. Du coup, on se demande pourquoi on les apporte en hélicoptère alors qu'ils mettraient 2 minutes à y aller à pied.
Bah, c'est pour pas qu'ils défoncent toute la ville en y allant.
Bah oui, mais je sais pas, moi, ils ont qu'à faire des endroits spéciaux.
Spéciaux.
Spéciaux, oui, mais voilà. Des endroits pour que je. Là, tu vois, des endroits pile pour que le Jaeger, il puisse mettre le pied sans détruire rien autour. Au lieu de gaspiller du carburant avec 25 hélicoptères. Ah, je vous jure, mais c'est pas logique ce film. Allez, Rayleigh et Mako rentrent à la base, tout le monde les félicite. Le daron lui dit qu'il a fait du beau travail. Et Chuck, l'abruti, là, qui déteste Rayleigh, bah, il lui fait un petit signe de pote. Ouais, non, mais ça marche pas du tout, en vrai. Je suis pas désolé. C'est grave cliché, encore une fois. Tu vois, ça, normalement, ça marche vraiment quand il y a eu une scène de ouf, mais avec les deux, quand il y en a un qui a sauvé la vie de l'autre. Et surtout, la réconciliation, tu l'as fait à la fin du film. Maverick et Iceman, dans Top Gun, tu vois, ça marche. Ils sont jeunes, ils sont pilotes, ils sont rivaux, ils s'aiment pas. Sauf qu'au final, ils sont dans la même team, et Iceman sauve Maverick qui pourra niquer les méchants. Et à la fin, tu les fais devenir potes. Parce qu'il y a eu un vrai élément déclencheur, tu vois, un truc direct qui fait que ça marche. Là, Chuck, là, me dit, on s'en fout de ce mec-là. De toute façon, il va mourir, alors...
Je spoil
à chaque fois. C'est pas aujourd'hui que je vais m'arrêter, hein. Le Marshal arrive pour les féliciter. Enfin, il est content de quelque chose, celui-là. Sauf que le Marshal, il faut qu'il reste le Marshal. Et avec lui, on a le droit d'être content, mais seulement quelques secondes.
Aussi dur que cela puisse paraître, nous n'avons pas le temps de faire la fête.
That's what she said.
Eh ouais, tu vois, c'est con, hein, parce que... Ouais, il se trouve qu'on avait quand même un petit cadre devant nous, hein.
Nous avons perdu 2 équipages. Nous n'avons pas le temps de les pleurer.
Ah, ça non plus, on n'a pas le temps de le faire. Bon, bah écoutez, on a le temps de faire quoi, alors? Est-ce qu'on a au moins le temps de passer aux toilettes? Parce que y a pas de shot dans les Jaeger, on avait pas mis, hein. Et puis là, c'est clair que j'ai le Boeing en bout de piste. J'ai une balle dans le canon. L'ennemi est à mes portes. Faut que je fasse fonctionner la guillotine à boudin.
Bon, c'est bon, on a compris, là.
Oui, non, mais je sais, non, mais c'est pour dire. Pendant ce temps, Hannibal et sa team sont déjà sur place pour récupérer tout ce qu'ils peuvent sur le cadavre de Otachi. Newton est là aussi. Et il y a carrément des gens à l'intérieur du Kaiju pour récupérer son cerveau. Alors, bon, ça, je trouve ça assez joli. Non, c'est vrai. Pourtant, c'est clairement dégueulasse. Hein. C'est joli, mais c'est un petit peu dégueulasse quand même. Un petit peu comme... Et là, les mecs entendent du bruit. Ils captent un battement de cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le Kaiju n'est pas mort?
C'est un fœtus.
Eh oui, truc de ouf, il y a un petit Kaiju qui est sorti du grand. La Kaiju était enceinte. Oh là là, c'est pas possible, comme cet original.
Tu vas quand même pas nous dire que c'est encore un truc cliché, là.
Non, pas du tout. Non. Bon. C'est vrai qu'on avait déjà vu ça dans le Godzilla de 97 et aussi dans Suite 2013. Hein. Et là, je vous parle que des films que j'ai vus. Il est très fort possible que des gros monstres monstres enceintes comme ça, on en a déjà vu dans gavé d'autres films. Mais bon, écoutez, on va dire que c'est un hasard. Le type se fait poursuivre par un monstre et il tombe juste devant lui. Ça aussi, c'est pas du tout cliché, on n'a jamais vu ça dans aucun autre film. Fort heureusement, le petit bébé Kaiju, tout mignon, tout gentil, gros comme une étrogno, le petit père, bah il s'étrangle comme un abruti avec le cordon. Bien fait pour sa gueule, cet enfoiré. Alors, attends, non, une bouche de moins à nourrir. Hein. Ça d'ailleurs, ça me rappelle un petit frère que j'aurais dû avoir et qui est mort dans les mêmes conditions. C'est vrai, je raconte pas de conneries en plus. Et moi, bah, j'avais réagi exactement de la même manière.
Avorton merde.
Enfin bref, je...
Hannibal s'est fait bouffer. Ah là, il a pas une bonne lecture de la situation. Hannibal, lecture...
Oui, c'est bon, c'est Hannibal lecteur, on a compris.
Tu rigoles, je suis sûr qu'il y en a plein qui l'avaient pas, là. Au QG, tout le monde se prépare. Chuck dit que son père s'est blessé au bras, alors il peut pas piloter.
Mon père est blessé, alors qui sera mon copilote?
Oh la vache, c'est terrible. Ça, c'est de la mise en scène, mon gars. Vous avez vu la porte qui s'ouvre exactement au moment où Chuck il finit sa phrase? Putain, il trucage, quoi. Et le voilà, le Marshall, dans sa belle combinaison moulante. Mako lui dit qu'elle ne veut pas qu'il y aille parce qu'il est malade et qu'à cause des radiations, il va mourir. Mais le Marshall, il va y aller quand même, parce que lui, il a le sang des sacrifices. Et puis surtout, c'est pas une tapette.
Tu es une fille courageuse. J'ai beaucoup de chance de t'avoir vu grandir. Mais si je veux mener ceci à bien, j'ai besoin de toi, besoin que tu me protèges.
Oh putain, sérieux, non mais je sais pas, dites quelque chose dans les commentaires, dites-moi que vous êtes d'accord avec moi. Allez, la grande bataille finale arrive, et c'est le moment pour le Marshall de faire le discours le plus important de sa vie.
S'il vous plaît, écoutez bien.
Eh ben non, mais on n'a pas le temps, c'est tout. Tout à l'heure on n'avait pas le temps pour faire notre truc, et ben là on n'a pas le temps pour t'écouter. De toute façon, son discours il est nul à chier. Allez, let's fuck, on va casser du kaiju, bordel. Gypsy Danger et Striker Oreka arrivent près de la faille, et là il y a un immense kaiju le plus gros qu'ils ont jamais vu qui arrive et se place juste devant eux. Striker se met en place, alors que derrière le combat entre Gypsy et un autre kaiju a déjà commencé. Et oui, parce qu'il y a un kaiju qui a surpris Gypsy au dernier moment sur le côté, tu vois. Alors que depuis le début du film, les mecs au QG ils ont à chaque fois la position exacte du kaiju, et ils arrêtent pas de donner les informations aux Jaeger, mais là, comme par hasard, ils ont rien dit. Allez, baston de ouf dans les profondeurs, ça s'envoie des mandales d'une puissance ultra vénère. Et ça, pour le coup, j'avoue que la puissance des coups, elle est assez bien retranscrite. Enfin, un truc que j'apprécie, quoi. Mais dis donc, ce film serait-il en train de devenir un bon film?
Alors, peut-être!
Mais vraiment, c'est vrai, on ressent la lourdeur des coups, tu vois, et la force et l'intensité du truc. Quand Gypsy découpe littéralement un kaiju en deux avec son épée, là, c'est quand même un truc de ouf. Et c'est d'ailleurs là qu'on se rend compte que l'épée, en fait, c'est clairement la meilleure arme contre les kaiju, sauf que bah, pendant les deux tiers du film, ils s'en sont pas servis. Striker se fait défoncer par le gros kaiju, mais il arrive quand même à lui mettre un bon coup de lame. Le kaiju appelle tous ses potes qui se précipitent vers lui. Et là, pour Striker, c'est la fin. Le Marshall comprend qu'ils sont perdus et qu'ils ne pourront pas s'en sortir. Il dit alors à Mako de terminer le travail sans lui et qu'il va se faire exploser pour tuer tous les kaiju autour. Et à côté, bah, t'as Chuck, hein, qui lui, bon, c'est-à-dire qu'il aurait pu avoir une autre idée aussi des fois. Comme par exemple, demander à Gypsy de venir les aider, tu vois, pour peut-être ne pas mourir, tu vois. Ça aurait pu être une idée aussi. Hein. Mais non, le Marshall, il veut rien savoir. Et pendant ce temps-là, t'as le daron qui entend tout, tu sais, il comprend que son fils, il va mourir à cause du Marshall, quoi. Non, en fait, le Marshall, c'était vraiment le pire des enfoirés depuis le début. Et attention, les kaiju arrivent, et pouf! Explosion de ouf sous la mer, tout le monde se fait pulvériser. Et le Marshall et Chuck sont morts. Et franchement...
On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Hey, hey,
hey. Gypsy saute et il planque le gros kaiju et tombe dans la faille et il est passé dans une autre dimension incroyable, il se trouve dans un autre espace-temps, c'est complètement fou. Mais là il ne reste presque plus d'oxygène, alors Riley donne ce qui lui reste à Mako et l'éjecte du Jaeger. Il l'a sauvé, ah, il est génial, hein. c'est vraiment un bon homme. Allez Riley, attends, j'ai ma poule, il faut faire exploser ton réacteur, t'as intérêt de gérer bordel, ce serait vraiment trop con de mourir maintenant.
Ce serait vraiment trop con de mourir maintenant.
Allez Riley, déclenche le compte à rebours, il s'éjecte à la dernière seconde, les kaiju voient un truc chelou qui arrive. Putain la vache, ils ont exactement la même tronche que les extraterrestres dans Independence Day. Mais bon, écoutez, peut-être que ce n'est qu'un hasard. Et attention, et POUM! La plus grosse explosion de toute l'histoire du cinéma! Pas du tout, il y en a eu des beaucoup plus grosses. Et c'est terminé, la brèche est détruite! C'est incroyable! Mako ouvre sa capsule et va tout de suite voir si Riley va bien. Alors là, on va évidemment avoir droit aux fameuses 30 secondes pendant lesquelles le réalisateur essaie de nous faire croire que le héros est mort. Ça fonctionne hyper bien, et on y croit à mort. On ne se doute pas une seule seconde qu'il va se réveiller. Et pourtant, il se réveille et dit à Mako qu'elle le serre trop fort et qu'il ne peut plus respirer. Ah putain, mais quelle réplique de génie! Et au QG, tout le monde crie de joie, c'est magnifique! Les deux scientifiques, ils sont best friends pour la vie. Le chien, bien sûr, il est là. Heureusement. Heureusement qu'il est là, le chien. Rien n'aurait jamais pu se faire sans lui. Et Riley et Mako peuvent enfin se retrouver. Allez, un petit bisou quand même? Embrassez-vous, là. Mais qu'est-ce que vous foutez? Allez, c'est la fin du film, là, c'est le dernier plan, là, allez. Non, pas de bisous, non, et on n'aura même pas droit à ça. On envoie 50 hélicoptères pour récupérer juste 2 personnes. D'ailleurs, les hélicoptères ne s'arrêtent même pas, hein, vous avez vu, ils continuent. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, nous prendrons le prochain. Et fin. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Pacific Rim. Un film très spécial, parce qu'en fait, je sais toujours pas pourquoi il est spécial. Et est-ce qu'il est vraiment spécial ou est-ce qu'il est juste nul? Et si vous me dites que je me trompe, je vous répondrai.
Non, je ne crois pas.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'hab, je vous remercie énormément pour votre soutien et votre fidélité. Un grand merci aux tipeurs, merci à Œil de Nuit, à Greg Aguilar, à Whiskas Chaton. Un grand, grand merci à Dorian ou Dorian. J'ai vu ton message, mon gros. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup à Emmanuel Bruni aussi, c'est très gentil. À Sébastien également et à tous ceux que j'oublie, merci du fond du cœur. Allez, la prochaine vidéo arrive, je sais pas quand, mais bientôt, hein, comme d'hab. Est-ce qu'on va se refaire un film? Est-ce qu'on va se refaire de l'astro? Est-ce qu'on va se faire une petite biographie?
Mystère.
Bref, je vous laisse, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oubliez pas, restez toujours dans l'à peu près. C'était Yann Solo sur 12 par sec. Ciao.